le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. 20 ans après les attentats, l'Amérique rend hommage aux 2977 morts du 11 septembre. Cérémonie solennelle à New York au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center. Nous serons à New York dans un instant et nous irons à Shanksville en Pennsylvanie où l'ancien président George W. Bush et la vice-présidente Kamala Harris ont assisté à une cérémonie d'hommage aux passagers qui ont tenté de reprendre le contrôle de l'avion aux mains des terroristes. L'ancien président Bush a déploré la désunion de l'Amérique 20 ans après les attentats. Dans ce journal également, la dernière fête de l'UMA à La Courneuve avant déménagement et le discours de Fabien Roussel, fierté retrouvée pour le patron des communistes français. 9e semaine de mobilisation contre le pass sanitaire et puis en football, sans Messi ni Neymar mais avec Mbappé, le PSG écrase Clermont 4-0 lors de la 5e journée de Ligue 1. La météo pour demain, journée calme et agréable. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Plusieurs minutes de silence, des hommages musicaux. Les États-Unis commémorent les 20 ans du 11 septembre, des cérémonies d'hommage aux 2977 personnes tuées ce jour-là lors des attentats les plus meurtriers de l'histoire. À New York, une cérémonie solennelle a eu lieu au mémorial de Manhattan où se dressaient les deux tours jumelles du World Trade Center. Joe Biden, le président américain, a présidé en silence cet hommage aux victimes en compagnie de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton. En direct de New York, on retrouve notre correspondant Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien. Une journée du souvenir réservée en premier lieu et comme chaque année aux familles des victimes, Sébastien.
Oui, on leur a donné un ruban bleu, un bleu ciel quand elles sont arrivées à partir de 7h ici sur le site qu'on a appelé Ground Zero il y a 20 ans. À 8h30, c'est le président américain Joe Biden qui entre sur l'esplanade entre les deux bassins avec sa femme. Derrière lui, ses deux prédécesseurs démocrates et leurs épouses, Bill Clinton et Barack Obama. Tous portent ce même ruban bleu à la boutonnière. La cérémonie commence par l'hymne américain chanté par un chœur d'enfants new-yorkais. Il est déjà 8h46, l'heure de l'impact du premier avion sur la tour Nord, première des 6 minutes de silence, puis la longue lecture des noms des 2977 victimes continue.
Jeremiah Joseph Ahern,
Joanne Marie Alariotis.
Les officiels portent un masque noir, ils ne bougent pas. Bruce Springsteen marque la première pause dans la litanie des noms. Chemise blanche pour le rocker, guitare, costume et cravate noire. I'll see you in my dreams, je te verrai dans mes rêves. Pendant ce temps, au Pentagone et à Shanksville, deux autres cérémonies commencent sur les deux autres sites des attaques. George Bush, le président en fonction en 2001, prend la parole.
Dans les semaines, les mois qui ont suivi les attaques, j'ai été fier de guider une superbe nation, résiliente, unie. En ce qui concerne l'unité de l'Amérique, ces jours semblent révolus.
La vice-présidente Kamala Harris s'avance ensuite au pupitre sur ce mémorial du vol 93. Elle répond en quelque sorte plus optimiste à l'ancien président républicain.
Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre 2001, nous nous sommes tous rappelés que l'unité était possible en Amérique, que l'unité était impérative en Amérique.
La vice-présidente, dans les mêmes mots que ceux de Joe Biden, l'appelle à l'unité transmis hier dans sa vidéo publiée par la Maison-Blanche. Biden qui, lui, ne dira rien de la journée, c'est celle des familles des victimes comme chaque année. Après la cérémonie ici à Manhattan, il est allé déposer des gerbes de fleurs à Shanksville et au Pentagone, Frédéric.
Alors Sébastien, les anciens présidents américains, et on a entendu George W. Bush participe aux cérémonies, mais il manque Donald Trump. Que fait Donald Trump aujourd'hui?
Et oui, effectivement, lui n'assiste à aucune des cérémonies. Il a lui aussi publié une vidéo ce matin dans laquelle il parle du 11 septembre comme d'un jour très triste. Il y salue la bravoure des policiers et de tous les first responders, les secours qui ont fait, dit-il, un travail incroyable il y a 20 ans. On les aime, on les remercie, dit encore le 45e président des États-Unis qui a quitté la Maison-Blanche il y a 8 mois et qui reste chez lui en Floride ce soir pour commenter, ça ne s'invente pas, un match de boxe à Hollywood en Floride. Match entre Evander Holyfield et le Brésilien Vitor Belfort. Allez voir l'affiche, Frédéric, sur les réseaux sociaux. La tête blonde du président républicain au milieu des deux poids lourds torse nu, ça vaut vraiment le coup d'œil.
Sébastien Paour, en direct de New York avec Loïc Loury et Marc Garvenès. Autre moment fort donc de ces cérémonies à Shanksville, on en a un peu parlé, en Pennsylvanie, où le dernier des 4 avions détournés le 11 septembre, le vol UA-93, s'est écrasé dans un champ. Sa cible était la capitale fédérale américaine. Les 40 passagers de ce vol 93 de la compagnie United Airlines se sont révoltés. Ils ont tenté en vain de reprendre le contrôle de l'appareil. George W. Bush, donc l'ancien président américain, qui était à la tête des États-Unis au moment des attentats du 11 septembre, a prononcé un discours. On en a entendu un extrait à Shanksville, où l'on retrouve notre envoyé spécial, Boris Loumagne. Bonsoir Boris.
Bonsoir Frédéric.
Et l'ancien président Bush et l'actuelle vice-présidente Kamala Harris étaient tous les deux invités lors de cette cérémonie.
Oui, comme l'a raconté Sébastien Paour à l'instant, devant les familles de victimes, ce vieux monsieur s'est avancé sur la scène. Ce vieux monsieur, c'est l'ancien président George W. Bush, très applaudi ici, très apprécié par les familles. Lui qui a poussé à la construction de ce mémorial à la tribune. Lui, le républicain, parle du courage de ses passagers qui se sont révoltés pour reprendre le contrôle de l'avion. Il parle de la rébellion contre les terroristes. Il parle de l'esprit d'équipe de ces hommes et de ces femmes qui se sont unies pour se battre contre la terreur, toutes ces valeurs derrière lesquelles aiment se retrouver les Américains. Et d'ailleurs, le discours de George Bush est très applaudi. Puis vient le tour de Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente, au pupitre. Elle, la démocrate, se souvient de cette Amérique unie autour d'une même peine il y a 20 ans, au lendemain des attentats. Elle qui veut retrouver cette unité aujourd'hui, dit-elle, consciente qu'après l'ère Trump, consciente qu'avec la pandémie ou avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, bref, consciente que son pays est plus que jamais divisé. Elle termine son discours, la moitié des invités ne se lèvent pas, n'applaudissent pas. Deux Amériques se font face ici, même en ce jour censé célébrer l'unité du pays.
Boris Loumagne en direct de Shanksville en Pennsylvanie. Merci. L'actualité à l'étranger, au Liban, avec l'annonce d'un nouveau gouvernement après 13 mois de longues tractations politiques. Un gouvernement dirigé par le premier ministre désigné Najib Mikati. La mise en place d'un nouveau gouvernement était une condition préalable à l'obtention de l'aide internationale. Et donc ce nouveau gouvernement libanais de 24 membres va devoir mener les réformes demandées et redresser un pays englué dans une crise économique et sociale sans précédent. L'annonce du nouveau gouvernement accueilli à Beyrouth avec beaucoup de scepticisme. Reportage Aurélien Colli.
Écrasé par la chaleur, sans ventilateur ni air conditionné, faute d'électricité, Hussein ne se fait aucune illusion sur ce nouveau gouvernement. Il ne fera rien comme ceux d'avant, ce sont les mêmes partis qui sont derrière, les mêmes corrompus, résume cet épicier de 53 ans, membre de la communauté chiite. Assis à l'ombre d'un arbre dans le centre-ville de Beyrouth, il y a aussi Aïssam. Lui est sunnite, mais fait le même constat. Ils se ressemblent tous, ils se moquent du peuple. Ils sont tous riches, mais nous, on arrive à peine à manger, explique ce sexagénaire qui gagne moins de 2 euros par jour en garant des voitures. Même désenchantement dans les couches plus aisées. Jean-Paul est entrepreneur dans un quartier chrétien.
On a un gouvernement, c'est déjà bien. Bon, on va sûrement avoir une petite période d'accalmie, parce que les gens vraiment n'en peuvent plus. Mais dans le fond, je ne vois pas du tout l'issue avec ces gens qui font partie de la classe corrompue. Et c'est triste.
Le changement ne peut venir que des urnes, estiment de leur côté les mouvements d'opposition au vieux parti confessionnel. Naji Abu Khalil est membre du Bloc National.
La seule voie du changement au Liban passe par les élections législatives du 8 mai 2022. Il est grand temps de permettre à de nouveaux acteurs au Liban, forts de leur attachement à la souveraineté nationale et à la laïcité de l'État, de tenter de sauver le pays.
Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Plusieurs milliers de personnes manifestent à Berlin. Ils protestent contre la hausse des loyers dans la capitale allemande. Une manifestation qui intervient 2 semaines avant la tenue d'un référendum consultatif visant à exproprier les grandes sociétés immobilières qui détiennent plus de 3000 logements à Berlin. Sur place, notre correspondant Ludovic Piétenu.
Il y a une quinzaine d'années, la ville a vendu des milliers de logements au privé, des sociétés qui ont depuis prospéré et pris une part de plus en plus importante du gâteau. La colère des manifestants, comme ils le scandent ici, c'est bien contre les spéculateurs. Pour décrocher ce scrutin, il aura fallu 2 ans de mobilisation, 2 campagnes de signatures, guère facilitées par la pandémie de coronavirus, une initiative populaire qui a tout de suite emballé Nancy.
Quand j'ai vu l'affiche « Deutsche Wohnen und Co. enteignen », c'est-à-dire exproprier les grandes sociétés immobilières, que je me suis dit, formidable. Si nous contrôlons ces logements, les bénéfices ne seront plus payés aux gens ailleurs, ils seront utilisés ici.
Deux semaines avant ce référendum, il faut encore mobiliser, explique Juliette, une Française de 24 ans.
Ce référendum, il sera valable que s'il y a 25% des électeurs électrices qui votent.
Are you ready? Yeah!
Et donc c'est aussi ça un peu la clé, c'est de se dire, même si les gens sont d'accord avec notre projet, est-ce que ça signifie qu'ils vont aller voter?
Dans les sondages depuis deux ans, pas trop de changements, le oui reste stable, une courte victoire est donc envisageable et forcerait le législateur allemand à s'emparer du sujet. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
L'actualité politique en France et une page se tourne à la Courneuve. C'est ce week-end la dernière fête de l'humanité en Seine-Saint-Denis. L'an prochain, la fête de l'Huma, ce rendez-vous politique et musical le plus populaire de France, se tiendra dans l'Essonne, à Brétigny-sur-Orge. Et cette année, encore à la Courneuve, la fête de l'humanité reçoit plusieurs invités inattendus, comme Valérie Pécresse, candidate à une éventuelle primaire à droite et qui débattra ce soir avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste et candidat à l'élection présidentielle, a pris la parole cet après-midi à la Courneuve. Et selon lui, le Parti communiste français a retrouvé sa fierté. Neuvième samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire, à quelques jours de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les professions de santé. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes du pays. Après trois week-ends de baisse, les organisateurs des cortèges anti-pass espéraient un sursaut de mobilisation. À Paris, où quatre cortèges différents se sont formés, il y a eu des tensions et des heurts avec les forces de l'ordre, notamment sur les grands boulevards. Valentin Dunat.
Cela fait bientôt une heure, en effet, qu'il y a des affrontements rue de Rivoli, juste à côté du Conseil d'État, entre des groupes ultra-violents, des Black Blocs et les forces de l'ordre. Des tirs de mortier, des jets de pavés, de plaques en acier qui ont déjà été lancés cet après-midi sur les grands boulevards contre les policiers et les gendarmes qui répliquent avec des gaz lacrymogènes. À vrai dire, la situation est assez confuse ce soir, avec des groupes éparpillés ici et là, alors que la police tente de mettre fin à cette manifestation. Une mobilisation qui semble avoir rassemblé bien plus de monde que lors des derniers samedis de mobilisation. Et ce pour deux raisons. Aujourd'hui, à Paris, il y avait des personnes venues de toute la France pour demander le retrait du pass sanitaire. Et puis les soignants se sont largement mobilisés. Les infirmiers, aides-soignants, pompiers qui dénoncent de leur côté l'obligation vaccinale qui entre en vigueur ce mercredi.
Gérard Louvain et son mari, David Moine, visés par une nouvelle enquête pour viol sur mineur, selon le parquet de Paris. Au moins quatre plaintes se sont ajoutées à celle du neveu de Gérard Louvain, qui l'accuse d'avoir facilité un viol commis par son mari. Une femme de 38 ans, tuée par arme blanche ce matin chez elle à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Son conjoint, âgé de 53 ans, a été placé en garde à vue. L'homme a alerté lui-même la police. Il a reconnu avoir égorgé son épouse et, selon les premiers éléments de l'enquête, un différend a éclaté au sein du couple sur fond d'infidélité. Damien Tarel, l'homme qui avait giflé Emmanuel Macron, est sorti de prison ce matin. Damien Tarel aura passé 3 mois derrière les barreaux. Il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes, pour avoir donc giflé le président de la République lors d'un déplacement à Train-l'Ermitage dans la Drôme. Les autorités souhaitaient une sortie de prison discrète. Damien Tarel a tenu une conférence de presse pour expliquer qu'il ne regrettait rien. Du football avec la 5e journée de Ligue 1, journée importante avant la Ligue des Champions qui débute la semaine prochaine, et une affiche inédite au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait Clermont, le PSG sans Messi, sans Neymar, mais avec Mbappé en attaque et Donnarumma dans les buts, s'est imposé 4-0, Alexandre Vaux.
Sans Lionel Messi, ni Neymar, mais avec Kylian Mbappé, sifflé par une partie du public avant le coup d'envoi, et son nouveau gardien italien Gianluigi Donnarumma, le PSG a d'abord concrétisé sa domination en première période grâce à Ander Herrera, premier doublé en Ligue 1 pour le milieu de terrain espagnol. Et puis au retour des vestiaires, le show, Kylian Mbappé débute enfin en deux accélérations. Le buteur parisien marque et fait marquer sur une frappe contrée son coéquipier Idrissa Gueye pour le 4-0. Avec 5 victoires en 5 matchs, le PSG conforte sa première place au classement et prépare bien son entrée tant attendue en Ligue des Champions mercredi soir à Bruges en Belgique. Première défaite en revanche pour le promu clermontois qui reste 3e avant la suite de la 5e journée de Ligue 1 ce soir.
Alexandre Vaux au Parc des Princes. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Jean-Michel Golinski.
Pas d'intempéries en vue demain. Les seules averses et les pointes d'orage vont se limiter au massif de la moitié sud aux heures les plus chaudes. Dans l'ensemble, c'est une ambiance calme qui se prépare, mais le début de la journée sera souvent troublé par des grisailles assez répandues, mais partout d'évolution favorable vers un temps ensoleillé l'après-midi, avec, il est vrai, des nuages tout de même moins nombreux dans la moitié sud qu'au nord, où le ciel sera un peu plus variable, avec des températures maximales de 20 à 25 degrés du nord de la Loire au quart nord-est et de 25 à 30 plus au sud. Il est prévu 20 degrés de Cherbourg à Dunkerque, 22 à Lille et à Alençon, 23 à Reims, Rennes et Paris, 24 à 25 sur le centre Val-de-Loire, la Bourgogne et l'Alsace, jusqu'à 28 degrés dans le quart sud-ouest et en Rhône-Alpes et 30 en basse vallée du Rhône.
Jean-Michel Golinski de Météo France.